12h-13h, France Bleu Lorraine Midi.
On part à la cour de Lunéville, à la cour de Stanislas. On a rencontré des grands noms, beaucoup d'hommes. Mais il y avait des femmes et de grandes femmes également. Émilie du Châtelet en fait partie.
Oui, elle a été l'un des ornements de la cour de Lunéville, de Stanislas. Elle y a d'ailleurs longtemps vécu, puis surtout elle y a perdu la vie. Relations amoureuses, écriture, elle a passé beaucoup de temps entre le château de Siret, qui est pas très loin de chez nous, hein, qui est en Haute-Marne, un très joli château d'ailleurs qu'on peut visiter, qui est situé entre, pour vous la faire courte, entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc, au milieu quasiment. On peut donc découvrir ce beau château où elle a longtemps vécu. Alors, qui est-elle? Bien, elle s'appelle de son vrai nom Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil. La famille de Breteuil, ce sont des gens qui bossent beaucoup dans le monde diplomatique de l'époque. Il y aura notamment plusieurs Breteuil, ambassadeurs dans le point névralgique de l'époque, l'Autriche. Ce sont des gens qui connaissent bien le boulot. Et alors, ce Breteuil-là, le père d'Émilie, c'est un homme assez avant-gardiste puisque il est un des rares, et il se compte vraiment sur le doigt d'une main à l'époque, à considérer qu'après tout, il n'y a pas de raison que sa fille n'ait pas le droit d'étudier, d'avoir des connaissances, et qu'elle ne soit pas uniquement enfermée dans un couvent comme on le faisait à l'époque. Vous savez, au bout d'un certain temps, vers l'âge de 6-7 ans, on les mettait dans un couvent, elle ressortait à 15 ans et on les mariait, sauf exception comme par exemple Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, qui va être mariée mais qui va ensuite faire une carrière plus ou moins recommandée par les couvents. Et donc... Il va lui faire apprendre évidemment à lire, à écrire, mais aussi le latin. Et en plus, il va constater, Monsieur de Breteuil, que sa fille est vraiment douée pour apprendre. Donc, il lui faut aussi apprendre le grec ancien, l'allemand, la musique. Elle fait du théâtre également. Elle est assez douée pour chanter l'opéra. Bref, une fille brillante, intelligente et cultivée, ce qui est assez original à l'époque. Elle est présentée à la cour. Ça, c'est une tradition à l'époque. On est présenté au roi. Alors, le roi, en l'occurrence, est très jeune à l'époque, quand elle a 16 ans, elle arrive à la cour du régent et elle va connaître cette cour absolument extraordinaire. Qu'on n'a pas revu ensuite, qui fait un peu penser vite fait, si on fait un parallèle un peu audacieux, à ces années 68 de libération un peu, vous savez, en France, sauf que là à l'époque du régent, c'est uniquement consacré à l'aristocratie, faut pas non plus exagérer. Alors on fait un peu on est libre quoi, hein, on profite de la vie dans tous les sens du terme, y compris dans le sens on va dire physique du terme, et elle arrive à 16 ans à cette époque-là, autant vous dire que ça va la marquer et qu'elle va rester d'ailleurs Émilie, très libre, hein, c'est une femme très très libre. Alors c'est une sorte d'exception parce qu'à l'époque elles le sont pas. Vous savez qu'elles n'ont d'ailleurs aucune existence, enfin pas d'existence légale. Je veux dire, elles n'ont aucun droit légal. Une femme, c'est soit la fille de son père, soit la femme de son mari. Le seul moment où elles peuvent entreprendre, signer des papiers toutes seules, c'est quand elles sont veuves en fait. Donc, mais ceci dit, à la cour de France, on a comme quelques-unes comme ça de ces femmes libres qui, pour la plupart, ont connu la régence. Je pense notamment la fameuse princesse de Conti, vous savez, qui s'envoie pas mal en l'air et qui dit à son fils, qui lui dit, mais est-ce qu'on est bien sûr que mon père est mon père? Elle lui répond, mais mon fils, quand on tombe sur une botte d'épingle, c'est-on laquelle vous appliquez? Il y en a quelques-unes comme ça qui s'éclatent, on va dire. Et donc, elle en fait partie. Émilie, elle a un tempérament quand même, voilà quoi, elle aime bien ça, elle aime bien s'amuser. Alors, elle va fricoter notamment avec le marquis de Guébriant, qui est un des beaux gosses, vous savez, il est dans le top 5 des beaux gosses de la cour de Louis XV, parce que ça y est, on passe à Louis XV. Et alors, surtout, ce fameux maréchal de Richelieu, elle va avoir du mal, d'ailleurs, à se remettre du fait que, elle aurait bien voulu le garder pour elle, hein. Elle va simuler un suicide, si je me souviens bien, pour essayer de le garder. Maréchal de Richelieu, qui était probablement le plus beau mec du XVIIIe siècle. Et avec ça, un obsédé. Mais alors, il a fait les 400 coups. Il a notamment, alors je sais plus avec qui c'était, il me semble qu'en plus elle était assez proche du roi, il a acheté, parce qu'il était vraiment blindé, parce qu'il était maréchal de Richelieu. Donc c'est le petit-neveu du cardinal de Richelieu. Donc, vous voyez, il reste un petit peu d'argent dans la famille quand même. Donc il achète l'hôtel particulier à côté de la belle qu'il a convoitée, et il va faire installer la taque de cheminée de la belle qui correspond plus ou moins à la sienne sur une chimie. pour pouvoir aller facilement, tu vois bien. Donc il est quand même fortiche. Hein. Il y a une autre fois aussi, il allait très fin. Hein. Il est vraiment, on dirait une sorte de girandole en cristal, ce garçon. Et il allait très extrêmement fin, si bien que il arrive facilement à se faire passer pour une femme, si pour un peu qu'on rajoute deux trois, voyez, fard à paupières. Donc il va aussi comme ça, au nez à la barbe d'Amaris, se faire passer pour la servante d'une de ses maîtresses pour pouvoir faire sa petite affaire. Donc vous voyez, comment je veux dire, quand elle arrive dans les bras de Richelieu, Émilie, c'est pas la première, hein, et ça sera pas la dernière. Alors elle va se marier, vous savez qu'elle se marie. Elle se marie avec un garçon étonnant, le marquis Florent-Claude du Châtelet, vieille famille de Lorraine, un militaire, tout ce qu'il y a de plus militaire dans le côté le moins funky, c'est-à-dire, bon, il est assez carré, il est pas très marrant, il est pas du tout fait, il est pas trop branché, tu vois bien. Mais il a une énorme force, cet homme-là, et on lui doit énormément, c'est qu'il a l'esprit large. Il va la laisser un peu vivre.
Mieux, oui.
Ouais, et vous allez voir, on va développer l'histoire demain, mais elle va quand même être longtemps avec Voltaire, comme s'ils étaient mariés tous les deux. Il les laisse faire, et à un moment, quand Émilie va tomber enceinte des œuvres d'un autre que son mari, ils lui font boire un coup, elle couche avec son mari pour lui faire croire dans 9 mois que c'est son fils. Sauf que lui, il est loin d'être imbécile, il a bien compris qu'elle était enceinte et pas de lui, mais il a quand même l'esprit large. Donc sans lui, s'il avait vraiment choisi de suivre les règles morales de son époque, on n'aurait jamais eu Émilie du Châtelet, et je pense même qu'il aurait tué Voltaire. Donc vous voyez, mine de rien, derrière chaque grande femme, il y a un homme.